Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Camille Chaise. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. On va revenir sur la campagne que vous lancez aujourd'hui. Rendez les armes. Voilà ce que vous dites aux Français. Mais d'abord, cette révélation de la matinale sur RMC hier, un homme en situation irrégulière qui avait été mis en examen et écroué après avoir commis un viol sur une jeune femme à l'hôpital Cochin où il s'était fait passer pour un patient. Cet homme, on le découvre, faisait l'objet de 3 OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire. 3 OQTF sous 3 identités différentes. En fait, le mot obligation n'a pas vraiment de sens. Pourquoi ça ne marche pas, ces OQTF ?
Alors ça ne marche pas dans la plupart des cas. Effectivement, dans 20% des cas, on arrive à éloigner les personnes. Là, c'est un crime terrible, horrible. La personne est aujourd'hui en prison, vous l'avez dit, et ça soulève 2 questions, celle des OQTF et des obligations de quitter le territoire, mais aussi celle de la sécurisation des établissements de santé. Et on doit travailler mieux sur cette question, sur la question des obligations de quitter le territoire. La difficulté dans le cas d'espèce que vous évoquez et qui est une fois de plus dramatique, c'est comment, à cause de cette immigration irrégulière, on peut établir l'état civil de la personne, comment on peut établir sa nationalité. Tant qu'on ne sait pas de quelle nationalité il est, comment trouver le pays d'origine qui va pouvoir récupérer ce ressortissant.
Et c'est là, dans le cas d'espèce, c'est qu'un coup, il disait, il semblerait qu'il soit jordanien de 22 ans, mais il avait fait aussi, il avait dit qu'il était un coup égyptien, un coup jordanien. En fait, il changeait d'identité. Puisqu'il n'a pas de papier, il disait un peu ce qu'il voulait à chaque fois qu'il était arrêté.
C'est vraiment le problème de cette immigration irrégulière quand on n'a pas les empreintes digitales à l'entrée de la personne. Comment retrouver son pays d'origine et comment le faire accepter par ce pays d'origine? Et là, ça envoie à la question aussi des laissez-passer consulaires. Pour renvoyer la personne dans son pays d'origine, il faut que le pays d'origine l'accepte.
Donc, un, il faut savoir quel pays il est.
Et quand on n'a pas l'état civil, c'est beaucoup plus compliqué. Les directives qui sont très claires de Gérald Darmanin depuis cet été, c'est il faut mettre hors d'état de nuire prioritairement les personnes irrégulières qui sont un danger pour la société, et cette personne en fait
qu'est-ce qui va lui arriver, par exemple? Là, on ne sait toujours pas en fait son vrai nom.
Là, il est en détention, donc c'est du temps gagné. Il est hors d'état de nuire, c'est du temps gagné justement pour arriver à retrouver son identité, faire les démarches avec différents pays d'origine.
Et si vous on ne retrouve pas les identités,
c'est vraiment notre objectif.
Ça arrive qu'on ne sache jamais en fait et qu'il ne donne jamais la véritable identité.
Il faut le maintenir hors d'état de nuire. Donc il y a la justice qui peut le faire sur de la détention. Il y a aussi la rétention administrative sur une procédure administrative. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça reste grâce à la détermination des préfets, la détermination des agents de préfecture qui cherchent à établir ces éléments que le système se maintient. Ce qu'il faut, et c'est l'objet du projet de loi sur l'immigration qui est en débat, il y a des concertations
et qui arrivera à l'Assemblée,
à l'Assemblée bientôt. L'idée, c'est de rendre beaucoup plus automatique, beaucoup plus systématique tout cela pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette dans notre politique publique et pour que ce type de crime horrible ne se reproduise pas, ne se reproduise plus.
J'ai juste une dernière question sur ce point. Quand même, si on va au bout de cette logique et que dans un an, dans deux ans, on n'a toujours pas l'identité de ce personnage, il n'y a pas de solution, il n'y a rien en fait dans ces cas-là.
On travaille beaucoup en bilatéral avec plein de pays, notamment les pays du Maghreb, pour justement croiser les états civils. Et les empreintes digitales, c'est la clé de tout. Par exemple, on travaille avec le Maroc et la Tunisie pour arriver à croiser ces éléments.
Mais s'il est jordanien ou égyptien ?
Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler diplomatiquement avec tous les pays d'origine potentielle
de nos immigrés irréguliers.
Il y a des trous dans la raquette, malheureusement. Et c'est pour ça que les solutions sont pour partie nationales et pour partie diplomatiques, parce qu'on voit bien que c'est un problème qui va au-delà de nos frontières.
Et j'y reviendrai d'ailleurs avec mon invité à 8h30, Didier Lesky, qui est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Camille Chaise, vous lancez aujourd'hui une campagne notamment sur les femmes, les féminicides. On rappelle que c'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Quand on se sent menacé ou quand on voit une menace sur quelqu'un, on appelle le 3919. Et vous avez ce chiffre ce matin donné par vos services. 1/3 des féminicides sont le fait d'armes à feu. Comment lutter contre ce phénomène d'armes à feu qui, la plupart du temps d'ailleurs, sont des armes à feu non déclarées ?
Alors voilà, on a travaillé depuis plusieurs mois maintenant pour essayer de mieux réguler ces armes. On est en France, un pays où il y a environ 5 millions d'armes détenues légalement. On a beaucoup notamment de chasseurs ou de sportifs qui ont le droit d'avoir ces armes à domicile. Mais on sait qu'il y en a d'autres aussi qui sont pas forcément déclarées ou qui sont héritées d'une personne qui était chasseur ou qui avait ces armes et dont souvent les personnes ne savent pas quoi faire. Ça entraîne plusieurs choses. Ça peut entraîner des accidents domestiques. Un petit enfant qui va jouer avec cette chose qu'il va trouver dans le grenier. Voilà, exactement. Des armes aussi dont on ne sait pas quoi faire quand on les découvre. Et donc, pendant une semaine, c'est une opération spéciale où, sans poursuite administrative, sans poursuite pénale, on peut venir déposer au commissariat, en gendarmerie, à la préfecture, ces armes.
C'est quand? C'est maintenant?
C'est maintenant. Ça commence aujourd'hui. Ça va durer pendant une semaine. C'est la première fois qu'on fait ça en métropole. C'est des opérations qui ont déjà pu être menées, notamment dans les Outre-mer. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on régule beaucoup mieux ces armes. Soit on les rend parce qu'on n'en a pas besoin, soit on veut les conserver, des armes des fois historiques, qui peuvent être aussi des souvenirs familiaux, du grand-père, etc.
On vient pas forcément pour les donner.
Soit on les rend, effectivement, et nous, charge à nous de les détruire ou de les donner à un musée selon l'état de l'arme. Soit on peut les déclarer, et il y a un système informatique des armes qui est mis en place depuis peu, qui est un fichier informatique que d'ailleurs les policiers et les gendarmes vont consulter quand ils interviennent chez des personnes qui peuvent être violentes. On va vérifier si la personne a une arme ou pas.
On nous demande rien. Je viens avec 3 fusils au point de collecte. On me dit merci monsieur, bonne journée.
Alors justement, c'est là la spécificité de cette opération, c'est qu'il n'y aura pas de poursuite administrative ou pénale.
On ne vous demandera pas où est-ce que vous avez récupéré ce fusil.
Non, pour les armes à feu, on ne va pas le demander. Et donc c'est vraiment l'idée de faire un pas vers les personnes qui des fois savent qu'elles n'ont pas trop respecté ou que le vieux grand-père, comme vous le disiez, n'a pas forcément respecté la réglementation, n'a pas déclaré ce qu'il devait déclarer. L'idée, c'est que là, pendant une semaine, et c'est pour ça que c'est tout à fait exceptionnel et spécial, il n'y aura pas de poursuite, mais on va récupérer ces armes à des fins de destruction pour réguler finalement.
C'est un peu des repentis, c'est-à-dire en gros,
la plupart des fois, c'est aussi des personnes comme vous et moi qui se sont retrouvées avec cette arme sur les bras, héritée ou découverte. On ne sait pas quoi en faire, on ne connaît pas les démarches. Et donc là, c'est vraiment l'idée de simplifier les choses et de mettre en dehors de la circulation ces armes qui peuvent, une fois de plus, soit provoquer un accident domestique, soit être, par exemple, volées au moment d'un cambriolage et être après réutilisées pour des fins criminelles.
Et provoquer, en effet, des accidents, voire plus. Camille Chaise, un mot encore sur la situation à Mayotte. On en a beaucoup parlé au début de la semaine, une situation qui a beaucoup dégénéré avec une extrême violence. Le RAID a été envoyé à Mayotte pour tenter de remettre la situation au calme. Est-ce que vous avez des nouvelles ce matin? Est-ce que la situation s'améliore?
Alors, j'ai pas eu de nouvelles sur cette nuit, mais effectivement, des effectifs supplémentaires ont été envoyés à Mayotte et au ministère de l'Intérieur. On suit cette situation vraiment de très près.
Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Je rappelle donc votre opération Rendez les armes. Une semaine pour rendre les armes donc dans tous les commissariats de France.